France Inter.
Aujourd'hui, Black Friday ou déconsommation, raconté par
Cécile Desonnet, directrice d'études à Futurible,
et Samuel Sauvage, cofondateur de l'association Halte à l'obsolescence programmée.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Demain, comme chaque année, à la fin du mois de novembre, un vendredi va faire basculer une grande partie de la planète dans une frénésie d'achat, le Black Friday. En France comme ailleurs, il marque le lancement officieux des achats de Noël. Cette tradition devenue incontournable possède une histoire récente et une face bien plus sombre que ne le suggèrent les bannières de promotion. L'expression apparaît dans les années 50 à Philadelphie lorsque les policiers parlent de vendredi noir pour désigner le chaos qui s'empare des rues le lendemain de Thanksgiving. Foule massive, embouteillage, cohue, les commerçants y voient vite une occasion unique et quelques années plus tard, une autre lecture s'impose. Pour de nombreux magasins, ce jour est celui où les comptes repassent dans le noir, c'est-à-dire dans le bénéfice. Dès les années 70, les enseignes américaines en font une véritable fête commerciale. Le phénomène traverse l'Atlantique au début des années 2010, porté par l'essor de e-commerce. En France, il décolle vraiment entre 2013 et 2016, avant de devenir un rituel étendu. Aujourd'hui, ce n'est plus une journée, mais parfois un mois entier, rebaptisé le Black November. Mais derrière les bonnes affaires, les critiques s'intensifient. Les Black Friday, qui tient rarement ses promesses de réduction massive, s'accompagnent d'un lourd bilan écologique. Jusqu'à 2,5 millions de colis par jour étaient livrés à Paris en 2022 durant cette période, contre 200 000 en temps normal. Retour sur emballage, surproduction, data center aggrave encore la situation. À cela s'ajoute une dimension sociale éprouvante. Plusieurs ONG, dont Amnesty International, dénoncent les conditions de travail dans les ateliers textiles d'Asie, marquées par l'absence de liberté syndicale et de cadence épuisante. Face à ces constats, des alternatives émergent, le Green Friday, le Giving Tuesday ou fermeture volontaire de sites pour dénoncer la surconsommation. Alors que le consumérisme s'impose comme un moteur et un défi de notre époque, cette journée nous oblige à poser une question essentielle : de quoi avons-nous réellement besoin ? Samuel Sauvage et Cécile Desonnet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Alors que donc demain, vendredi, s'annonce comme le jour où les promotions vont faire tourner la tête de millions de personnes, on a évidemment choisi de prendre le contre-pied en mettant le bouton sur pause et en réfléchissant à cette spirale du consumérisme pour tenter de repenser avec vous à d'autres matières de consommer. Et pour nous y aider, vous avez publié respectivement deux ouvrages. Cécile Desonnet, c'est La société des besoins aux éditions Alternatives, et Samuel Sauvage, Surconsommation, on arrête tout et on réfléchit, c'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Comment tous les deux vous expliquez que le Black Friday soit devenu en quelques années un rendez-vous aussi massif, au point d'installer cette impression de besoin, d'urgence d'acheter, même lorsqu'on avait prévu de rien acheter ?
Pour moi, c'est vraiment la fuite en avant. C'est vraiment comment chercher, trouver d'autres occasions de continuer à acheter, alors qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin de tout ça. Et c'est comment on rajoute des moments un peu phares dans l'année, en plus de Noël, des soldes, etc., pour étaler aussi les périodes d'achat. Donc voilà, on est vraiment dans cette phase, enfin ce moment qui n'a aucun sens d'un point de vue de nos besoins.
Samuel Sauvage, de votre côté, comment vous l'analysez ?
Oui, c'est une journée noire pour l'environnement, mais qui est devenue un moment phare de l'année des Français, ce qui en dit long sur la place qu'accorde notre société à la consommation, qui est une place centrale, qui est devenue une sorte de ciment qu'aujourd'hui il faut réussir à déconstruire pour donner un autre sens à notre vivre ensemble.
Mais aujourd'hui, la consommation, c'est effectivement une place centrale dans la société française. C'est 55% du PIB, vous confirmez ce
oui.
chiffre, donc c'est énorme évidemment. Ça a un poids énorme. Qu'est-ce que ça souligne ?
Et ça souligne que notre société, déjà dans les années 70, on parlait de société de consommation, mais aujourd'hui, on est dans une société de surconsommation. On consomme 4 fois plus qu'il y a 50 ans. alors que nos besoins ne sont pas quatre fois plus importants, a priori.
Ouais.
Et ça, ça se traduit très concrètement en un suréquipement en milliers. On a aujourd'hui 10 000 objets, par exemple, dans un foyer moyen contre 300 il y a un siècle. Donc, cette suroccupation de nos maisons, de notre quotidien par cette accumulation d'objets, elle est vraiment symptomatique du fait qu'aujourd'hui, notre consommation, elle est accessible partout, tout le temps, en un clic, qu'on soit au fond d'une forêt un dimanche soir ou qu'on soit en centre-ville, on peut consommer, c'est aussi beaucoup plus accessible, ce qui fait que c'est devenu un ciment de notre société, malheureusement.
Ouais, Cécile Desonnet, c'est à la fois le moteur principal de l'économie, mais c'est aussi un marqueur social qui mêle le désir à la distinction, finalement.
Oui, en fait, moi j'aime aussi quand même rappeler que on a l'impression qu'on a toujours vécu dans cette société de consommation, c'est quand même pas le cas. Enfin, si on regarde, c'est moins d'un siècle, la société de consommation. Donc j'ai bon espoir finalement aussi qu'on puisse en sortir en effet, qu'on puisse en faire juste une espèce de parenthèse pour nous.
Ah oui, vous êtes très optimiste.
Mais on va en reparler, j'ai de bonnes raisons de penser qu'on pourrait en sortir. Donc oui, bien sûr, ça reste un marqueur social et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est justement, enfin historiquement en effet, c'est quand on avait les moyens de consommer beaucoup que ça permettait une distinction sociale, mais les choses s'inversent aussi un tout petit peu, c'est-à-dire que c'est justement dans les classes les plus aisées, les plus éduqués, qui a parfois cette volonté ou ces discours qui se détachent de plus en plus de la consommation matérielle, parce que justement, comme la consommation est devenue très démocratisée, la nouvelle distinction passe aussi par cette forme d'ascétisme revendiquée, de sobriété revendiquée, en disant « moi, finalement, je m'en passe ». Voilà. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça.
Ouais, c'est plutôt les riches qui vont faire preuve de sobriété, selon vous ?
Alors, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que dans les discours, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que par exemple, sur tous les mouvements autour du minimalisme, c'est des discours qui vont être portés plutôt par des élites. Mmh. Sur la viande, qui est toujours un excellent exemple, historiquement, effectivement, manger de la viande tous les jours, c'était quand même un signe de richesse et de classe sociale aisée. Aujourd'hui, c'est quand même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les personnes qui choisissent de moins manger de viande, c'est quand même des personnes éduquées, qui ont l'argent, qui ont aussi le moyen à la fois de s'informer et puis de consommer autrement. Donc, il ne faut pas oublier ça. Hein. C'est une question de moyens aussi culturels.
Ouais. Samuel Sauvage, vous insistez sur le rôle de la publicité et du marketing, évidemment, dans la création des besoins. Ce sont ces industries-là qui ont façonné aussi nos désirs et cette surconsommation.
Oui, tout à fait. On estime qu'on est exposé à plusieurs milliers de messages, d'informations publicitaires par jour. Et ça a un impact. On estime aussi qu'un euro investi en publicité rapporte autour de 7 euros de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça pousse à consommer davantage, et notamment autour de besoins qu'on peut qualifier d'artificiels, c'est-à-dire qui sont construits par la société pour s'imposer. Et en effet, ces besoins artificiels, ils se traduisent par des consommations dont on pourrait se passer et qui ont des impacts environnementaux, sociaux très importants.
Ouais. Cécile Desonnet, c'est ça, parce qu'évidemment, la publicité, elle encourage même à remplacer des objets qui fonctionnent encore très très bien. Hein. On est dans cette sorte de folie quand même.
Ouais, complètement. En gros, on est quand même dans une société de consommation, et c'est là où je parle de fuite en avant, qui, pour continuer à exister, à s'entretenir, doit en permanence encourager à reconsommer et donc à faire croire en effet que nos besoins sont illimités. C'est-à-dire que vous avez déjà acheté, mais en fait, soit il vous en faut plus, soit il faut remplacer. Et donc, en effet, on va faire croire, c'est exactement ce que tu viens de dire, que c'est l'innovation, le progrès de continuer à consommer. En revanche, sur la pub, là aussi, j'essaie d'insister sur ce qui va bien, sur ce qui bouge. Il y a quand même des choses qui bougent, donc soit des mesures en France, dans certaines villes aussi, où on commence à se dire, tiens, si on interdisait la pub, par exemple, pour toutes les énergies fossiles. Il y a une ville aux Pays-Bas qui a interdit la pub pour justement la viande, avec l'idée que c'est une consommation qui a un impact environnemental très fort. Donc on s'interroge quand même pas mal depuis quelques années sur cet impact de la pub et sur la manière de le réduire.
Ouais, on va voir qu'il y a des tendances qui commencent aussi à se dessiner, donc c'est pas inintéressant en ce moment. Samuel Sauvage, vous disiez, on a quoi, 10 000 objets en moyenne dans un foyer, c'est ça ?
On estime à environ 10 000 objets et plus particulièrement une centaine d'appareils, par exemple, électriques ou tout ce qui a besoin d'électricité. On achète chaque année autour de 40 vêtements, donc une trentaine d'éléments d'ameublement. Donc cette frénésie de la surconsommation, elle montre que la surconsommation, elle est partout dans le quotidien des Français, alors qu'ils ne se rendent pas compte. Mais au final, elle est presque nulle part dans les politiques publiques, cette lutte contre la surconsommation. On va vous parler un petit peu de comment on se déplace autrement ou comment réduire le chauffage. Mais comment est-ce qu'on arrive à consommer moins? On ne s'est pas intéressé en termes de politique écologiste.
D'autant que, c'est ça, il y a des répercussions directes sur le climat, sur les ressources, sur la biodiversité, sur les déchets. Donc en fait, ces achats, parfois compulsifs, ils ont des impacts directs aussi sur l'environnement.
Et en raison notamment du sac à dos écologique, c'est-à-dire derrière votre achat d'un appareil, par exemple un ordinateur qui pèse 2 kg, il y a 800 kg de matières premières pour le fabriquer. Donc tous ces impacts qui sont inconnus du consommateur lambda, ils sont très importants. Souvent, c'est à l'autre bout du monde, ce qui fait qu'on ne le comptabilise pas toujours dans nos émissions en France. Mais il faut le rappeler, la surconsommation est au cœur de la crise climatique, des ressources, des déchets. Mmh. Et donc, il est impératif de s'attaquer à elle.
C'est ça, et d'éclairer le lien qu'il y a finalement entre les deux. On va écouter le sociologue Razmik Ketchoyan au sujet des besoins, précisément.
En fait, il faut partir du système dans lequel on vit, qui est le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système qui est productiviste et consumériste. Ce qui signifie que le système produit toujours davantage de marchandises qui déversent sur les marchés. Et il y a besoin que nous, consommateurs, on absorbe, on achète ces marchandises pour laisser la place aux suivantes. Donc le productivisme et le consumérisme, c'est deux logiques qui vont ensemble. Le système est à la fois productiviste, il produit toujours davantage de marchandises, et il a besoin que nous, on les absorbe, qu'on les consomme pour laisser la place aux suivantes, et ainsi de suite. Pour que ce consumérisme y fonctionne, le système il a besoin de créer des besoins artificiels toujours nouveaux. C'est-à-dire de nous faire croire que tel ou tel achat relève d'un besoin essentiel pour nous. Mais évidemment, c'est un besoin qui est faussement essentiel.
Razmik Ketchoyan, donc, en 2023, sur la chaîne YouTube de la recyclerie. Cécile Désonnet, se créer des besoins artificiels. Finalement, c'est une mécanique qui est bien huilée.
Complètement. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, on nous fait croire que nos besoins sont illimités. On nous fait croire aussi que nos besoins passent forcément par de la consommation. Et donc, dès qu'on a besoin de quelque chose, on peut l'acheter. Alors qu'en réalité, il y a plein d'autres besoins qu'on va négliger. Et puis, ça veut dire qu'en réalité, on répond moins à nos besoins qu'à ceux justement de l'économie. C'est ce qu'explique Razmik. C'est qu'en achetant, c'est surtout l'économie qu'on va nourrir. Et l'autre point, c'est qu'en fait, on néglige... en gros, on est dans une logique, dans un système où c'est à chacun selon ses moyens et pas à chacun selon ses besoins. Et donc finalement, si on n'a pas les moyens de consommer et de répondre justement à ses besoins, on est laissé pour compte dans ce système. Donc c'est un peu les deux pendants. Il y a tout le volet impact environnemental sur consommation que Samuel rappelle, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que même dans un pays comme la France, il y a quand même une partie non négligeable des personnes qui ont du mal à répondre à un certain nombre de besoins, justement parce qu'elles ne rentrent pas bien dans ce système très marchand où tout est dicté par l'économie et par l'argent.
Donc l'exploit des marchés, c'est qu'ils créent justement ces besoins non vitaux, tout en prenant une place considérable.
Exactement, on est dans un système complètement délirant où finalement, je reprends dans le bouquin un peu ce qu'il appelle la pyramide de Maslow qui justement essaie de hiérarchiser un petit peu nos besoins, et on se rend compte que la pyramide actuelle dans notre société, c'est en gros... D'abord, répondons aux besoins de l'économie. Si on y arrive, effectivement, et notamment ça va passer par nous répondre à nos besoins matériels. Et puis, on va quand même laisser un tout petit peu de côté tout ce qui relève de ce que j'appelle les besoins immatériels. Donc, la santé, l'éducation, on va laisser l'État se débrouiller un petit peu avec ça. Et puis, les besoins des écosystèmes, de l'environnement, n'en parlons même pas. Ça rentre même pas dans le schéma. Donc, on est effectivement dans un système complètement inverse de ce dont on aurait besoin.
Est-ce qu'il y a des travaux qui existent sur le lien qu'on peut faire entre le bonheur que procure justement l'achat de ces objets, est-ce que ça crée réellement pour les personnes?
Alors justement, il y en a un, et en gros, elles disent un peu toutes la même chose, c'est que au-delà d'un certain seuil, d'un certain niveau de richesse, d'achat, etc., le truc il marche plus, ça fonctionne plus, et en gros, plus on a beau continuer à consommer plus, on sera pas plus heureux. Et par ailleurs, à nouveau, cette logique-là nous enferme dans pour être heureux, il faut acheter, il faut consommer. Alors qu'on voit qu'il y a des pays où ce lien-là, il existe beaucoup moins, et finalement, ils sont tout aussi heureux. Donc en gros, oui, on voit qu'il y a plein d'autres manières quand même de vivre en dehors de la consommation ou avec moins de consommation.
Samuel Sauvage, il y a un gros travail à faire pour essayer de convaincre tous les citoyens et citoyennes que nous sommes d'une possibilité d'être heureux, justement en passant par une autre conception de la consommation, c'est-à-dire la déconsommation en l'occurrence.
Oui, mais c'est paradoxal parce que justement ce que montrent ces études, c'est que il y a même une tendance à être plus heureux quand on arrive à s'affranchir de la surconsommation. Donc en réalité, cette promesse qui est à la fois environnementale et sociale, elle est aussi celle de vivre mieux. Donc ça ne devrait pas être si difficile de convaincre.
Mathieu Vidard, La Terre au carré.
pendant un an, Frédéric Mars a tenté une expérience, celle de la déconsommation. Freiner ses achats sans se priver. Son but, acheter mieux et surtout utile.
On a créé une sorte de grille d'indices qu'on appelle le MBA, c'est le minimum de bonheur acheté.
Le MBA, c'est une série de critères que l'objet doit remplir. Sa fréquence d'emploi, sa durée de vie et le plaisir qu'il procure. Si l'objet obtient plus de la moyenne, et peu importe son prix, alors on peut l'acheter. Mais au quotidien, se contenter du strict nécessaire n'est pas toujours évident.
C'est pas forcément rejeter l'ensemble de la consommation parce qu'on est des êtres consommants. Voilà, on ne pourra pas en sortir, c'est inévitable. Mais c'est simplement à chaque étape de l'achat d'un objet, quel qu'il soit, réfléchir et se dire pourquoi ça va me servir, est-ce que j'en ai vraiment besoin, quel va être son usage et surtout quel est le plaisir induit par cette consommation.
France 2, c'était un reportage en 2012 pour parler aujourd'hui de déconsommation à la veille du Black Friday avec vous Cécile Desaunay et Samuel Sauvage. J'aimerais avoir votre réaction sur cette volonté de freiner finalement, mais sans se priver. Qu'est-ce que ça vous inspire, Cécile Desaunay ?
Ben, c'est un sacré précurseur, parce que 2012, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'intéressaient à ces questions-là. Et c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle le No-Buy Challenge. C'est un défi qui est assez répandu maintenant sur les réseaux sociaux, de se dire que pendant un mois, ou éventuellement un an, si je suis très motivée, je ne vais pas acheter. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est vraiment une manière de se réinterroger, en effet, sur nos besoins, et se dire bah, de quoi je peux me passer, sans que, finalement, ça me pèse au quotidien. Donc je pense que le raisonnement est hyper intéressant sur le principe. Ouais. Ouais.
Quel regard vous portez sur ce type d'initiative, Samuel Sauvage, là, ce one-shot sur un mois ou un an, ça peut être le début de quelque chose de plus intéressant ou ça reste cosmétique pour vous, ces challenges ?
Alors oui, les deux, dans le sens où c'est intéressant et le témoignage de cette personne un peu paraphrase ce qu'on appelle la méthode bisou, vous savez, c'est se poser ces cinq questions avant d'acheter. Est-ce que c'est un vrai besoin ? Est-ce que c'est un besoin immédiat ? Est-ce que j'ai pas déjà un objet semblable ? Quelle est l'origine de ce produit ? Est-ce que le produit va être utile ? Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va parler du plaisir malgré tout. Mmh. Et dans nos travaux aussi avec Cécile, on montre que cette addiction, elle détourne le plaisir, c'est que c'est aussi un vide qui se crée chez le consommateur. Donc, essayer de retrouver cette partie de plaisir derrière la satisfaction de nos besoins, c'est un beau challenge. Malgré tout, ce que vous dites est vrai aussi, dans le sens où le nombre de personnes qui aujourd'hui vont au bout de cette logique reste très limité pour avoir un impact suffisant.
Ouais. Cécile Desaunay, je rappelle que vous publiez La Société des Besoins aux éditions alternatives et Samuel Sauvage ou Surconsommation, on arrête tout, on réfléchit, c'est aux éditions La Rue de l'Échiquier. Alors évidemment, pour celles et ceux qui nous entendent et qui disent, bah, ils sont gentils, ils nous parlent de déconsommation, ils sortent des livres. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu paradoxal quand même sur les bords ? Parce qu'un livre, c'est fait pour être vendu a priori, hein, donc c'est de la consommation aussi, c'est de l'utilisation de ressources.
Oui, alors en l'occurrence, un livre, c'est pas le plus, ce qui a le plus d'impact d'un point de vue écologique. Et en l'occurrence, on n'écrit pas non plus que pour vendre des livres, mais surtout pour être entendu et pour partager un certain nombre d'idées. Je peux rebondir sur la déconsommation ou pas ? Parce qu'en fait, c'est vrai que là, on l'aborde par des prismes très précis qui sont hyper intéressants. Mais en réalité, la déconsommation, moi, c'est ce que j'écris parce que j'écris dans un premier livre, j'ai écrit deux livres, deux fois plus d'impact environnemental. Mais en tout cas, dans le premier, déjà, je regardais ça et en fait, on voit que c'est un phénomène qui commence déjà un petit peu en France. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas juste une question de volonté, d'aspiration des individus, parce que sinon on se donne l'impression que oui, ça concerne que quelques personnes.
Donc il y a l'amorce de quelque chose ?
Oui, il y a l'amorce de quelque chose.
À quoi on le voit ça ? Il y a vraiment de la science là-dessus ?
Alors oui, il y a des données. En gros, ce qu'on regarde, c'est que concrètement, la consommation des Français, elle augmente déjà moins vite qu'avant. Tout simplement parce qu'on est sorti des Trente Glorieuses, on est sorti de cette phase de développement accéléré de notre société. On est dans une... Enfin, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est valable aussi pour la conso et pour la croissance. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est dans une France qui vieillit. Donc quand on vieillit, on consomme moins parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Bientôt, la population va diminuer. Donc forcément, mécaniquement, on consommera moins. Et puis tout simplement, on est déjà saturé. On se l'est déjà un petit peu dit là. Mais...
Il y a peut-être une question de revenus aussi quand même.
Exactement. Il y a des questions financières aussi, du pouvoir d'achat qui augmente lui-même moins vite. Et puis des contraintes financières parce que tous les mois, quand on perçoit de l'argent, il y en a une partie qui va au paiement d'un loyer, au paiement des factures, etc. Donc à la fin, il reste moins d'argent pour consommer. En plus, on s'interroge plus parce qu'on a déjà beaucoup de choses et qu'on est de plus en plus critique vis-à-vis de cette surconsommation.
Samuel Sauvage, qu'est-ce que vous répondez-vous à la question du livre dont vous êtes l'auteur et qui, évidemment, a aussi des impacts sur l'environnement ?
C'est vrai qu'il y a un paradoxe à promouvoir un livre et en même temps ne pas vouloir surconsommer. Là, on a développé un petit contrat là, qu'on met dans le livre quand on le vend.
Où c'est
on...
vrai, contrat de circulation d'ouvrage.
Voilà, on, ouais. on invite le lecteur à le partager au maximum autour de lui pour qu'en effet, il y ait par exemple 5000 lecteurs, mais 5000 acheteurs par exemple, mais 100 000 lecteurs. Enfin, qu'on soit vraiment dans le partage. C'est très intéressant de s'intéresser justement à comment est-ce qu'on partage des biens plutôt que chacun le posséder individuellement.
Ouais, mais ça, c'est intéressant quand même, parce que ça veut dire qu'un éditeur est aussi capable aujourd'hui de se dire « je vais accepter, dans un contexte en plus éditorial qui est assez catastrophique pour les livres, de me dire que je ne vais pas vendre autant, parce qu'il y a aussi un enjeu éthique finalement, et puis il faut être raccord avec ce que vous écrivez ».
Oui, après, c'est vrai que le gros de la consommation et des impacts se situe ailleurs. Souvent, on oublie les impacts du numérique en disant qu'il faut dématérialiser. Mais un livre, c'est souvent plus écolo que la plupart de nos plateformes en ligne. Donc, mais en effet, la sobriété, il faut la mettre partout. Et cette déconsommation, comme le disait Cécile, on commence à voir la saturation, le fait qu'on consomme moins vite qu'avant. Néanmoins... les enjeux environnementaux nous invitent à réduire drastiquement notre consommation, divisée par exemple par 9 notre consommation de vêtements. Donc il ne faut pas juste stabiliser, il faut radicalement consommer moins. Et il faut pour ça être, je pense, inventif à la fois de levier individuel et collectif.
Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec Cécile Desaunay pour dire qu'il y a déjà une sortie de la société de consommation qui serait en cours?
Oui, en effet, c'est de la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans cette époque charnière, mais il faut maintenant amorcer cette décroissance matérielle de notre consommation, ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir moins d'objets, parce qu'on peut les partager avec nos voisins, on peut les faire durer plus longtemps, on peut réparer davantage, etc. Donc, en soi, nos besoins peuvent être beaucoup mieux satisfaits, mais avec un nombre d'objets plus limité.
Cécile Desaunay, quand vous dites que les besoins seront davantage immatériels, ça veut dire quoi exactement? Pourquoi cette bascule?
En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'à nouveau, le système économique actuel nous force à négliger, par exemple, des besoins liés à la santé, où globalement, c'est plutôt l'État, les services publics qui prennent en charge ces besoins-là. On va être dans une société vieillissante, où les questions de santé vont prendre une place énorme. Le fait que le changement climatique, les dégradations environnementales vont être un enjeu en termes de, d'environnement, donc comment demain on habitera dans un environnement sain, où on aura les températures adéquates pour bien vivre, un accès à une eau de qualité, etc. Tous ces enjeux-là, ils sont globalement négligés, de même que les besoins liés au fait de vivre ensemble, d'être avec d'autres personnes. On est en fait plutôt dans une société de la solitude, et la consommation, le consumérisme accentue encore ça, accentue ce côté solitude. Et pareil, ça, le marché, il ne sait pas gérer ces besoins-là. Et donc, il y a vraiment un curseur à déplacer pour mieux intégrer ces besoins-là, même si ce n'est pas du matériel.
Ouais, Samuel Sauvage, la vraie question à se poser, c'est comment on peut mieux consommer aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est la notion centrale selon vous? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est suffisant ou pas?
Alors, on se demande tous comment mieux consommer. C'est normal. Et la plupart des Français sont d'ailleurs d'accord. Ils disent qu'il faut consommer moins, mais mieux. Mais comment faire? Et je pense que c'est un questionnement qui est utile, mais complètement insuffisant. Alors pourquoi c'est utile? D'abord, parce que clairement, il y a 4 promesses. Il y a le fait d'avoir de l'impact, de montrer l'exemple à travers notre consommation, de donner du sens à notre consommation, ce qui va nous rendre sans doute plus heureux. Et puis, c'est aussi faire des économies, parce que quand on renonce à des objets inutiles, par exemple, ou qu'on répare, etc., on peut faire des économies. Cependant, il y a 4 obstacles très importants qui font que moi-même, Cécile et vous-même, on se trompe presque tous les jours dans nos actes de consommation.
C'est quoi ?
Parce que d'une part, il y a l'aspect argent, il y a des produits qui sont trop chers parce qu'ils sont éco-conçus, etc. et qui ne sont pas toujours accessibles. Deuxièmement, on manque de temps pour aller dénicher à chaque endroit, l'achat d'occasion ici, l'achat en vrac pareil par là. Troisièmement, l'aspect social, c'est-à-dire qu'est-ce que va faire notre famille, nos proches, qu'est-ce qu'ils vont valoriser? On n'est pas tous dans des cercles qui valorisent une autre consommation et donc on est très influencé.
Oui.
Et quatrièmement, il y a l'aspect cognitif, c'est qu'est-ce qu'on arrive à comprendre? Il y a tellement de critères possibles de durabilité, d'emballage, d'esclavage des enfants, de colonisation, etc. Et donc tous ces critères-là, c'est difficile de tous les concevoir dans un acte d'achat, ce qui fait que moi-même, je commence le livre, par exemple, en parlant d'un smartphone où je me suis trompé de l'achat, dans l'achat, alors que j'étais moi-même assez expert du sujet. Et je me suis dit, bon, bah, si moi je me trompe sur un achat comme ça, ça veut dire que tous les Français se trompent tout le temps et qu'il faut ne pas faire reposer toute la responsabilité sur les épaules du consommateur.
Il y a des données de l'ADEME qui sont intéressantes. 3 Français sur 4 se diraient prêts à se mobiliser en faveur d'une consommation responsable. Pourtant, bah, ça ne se traduit pas vraiment dans les actes.
Mais non, parce que comme vient de le dire Samuel, en fait, en tant qu'individu, on est coincé, on est limité dans nos marges de manœuvre. On ne peut pas, à nous seuls, même si tous les Français se bougent et font leur maximum, ça ne suffira pas, parce qu'on est tous pris dans ces systèmes dont on parle depuis tout à l'heure. Et effectivement, l'ADEME le dit aussi, ils ont tout un outil qui est hyper intéressant donc, sur nos gestes climat, qui permet de mesurer son empreinte carbone. Ouais. Et quand vous faites le test, en fait, vous voyez que dès le début, par défaut, on vous met quasiment 2 tonnes imposées. En gros, à la fin, vous allez faire votre bilan et on va vous dire bah, il faudrait atteindre 2 tonnes en 2050, sauf que vous êtes déjà à 2 tonnes. Pourquoi ?
Personne.
Voilà, parce qu'en fait, là, on va prendre en compte justement bah, les infrastructures, les banques, les magasins, les écoles, etc. Donc, en fait, à nous seuls, on ne peut pas tout faire. Nos marges de manœuvre sont limitées. Et effectivement, il y a tout ce qu'on a évoqué sur la publicité, tous ces systèmes d'incitation, ces imaginaires collectifs qui nous brident en tant qu'individus.
Alors, c'est ça, Samuel Sauvage, parce qu'il faut mettre en garde aussi peut-être contre ce piège, on en parle régulièrement dans l'émission, qui consiste à responsabiliser uniquement le consommateur et à lui mettre tout le poids sur les épaules, parce que ce raisonnement il est quand même problématique aussi.
En effet, c'est bien confortable de dire, vous, consommateurs, il suffit que vous vous informiez mieux avec votre pouvoir de votre portefeuille, et puis tout ira mieux. En revanche, ce qu'il faut rappeler malgré tout, c'est que ce ne serait pas cohérent d'appeler à une déconsommation, par exemple, et puis de continuer à consommer comme hier. Donc, il faut essayer de s'améliorer, avoir la modestie de dire « je me trompe », etc., mais « je m'informe ». Et j'arrive à distinguer les grands et les petits gestes, c'est-à-dire qu'on vous dit parfois « oui, il faut supprimer les mails », etc., alors que le vrai geste, c'est de faire durer votre ordinateur, par exemple. Et donc, il y en a beaucoup des exemples où s'il faut focaliser vos efforts sur 2-3 gestes, lesquels sont-ils pour avoir un petit peu plus d'impact que ce qu'on vous porte à croire avec les discours dominants.
Cécile Desonnet, si on veut s'organiser vraiment collectivement face à une sorte de déconsommation, bah, il faut aussi que structurellement, on soit un peu aidé quand même. On ne va pas y arriver tout seul, nous, les petits consommateurs et consommatrices.
Exactement. Et c'est là où je sors ma carte. Et si on dézoomait un petit peu et qu'au lieu de se trop centrer sur la consommation, justement, on pensait plutôt en termes de besoins, donc ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mmh. En gros, le problème, je pense, vient vraiment du fait qu'on s'est laissé enfermé par cette logique très économique, très capitaliste, qui est, en gros, il faut avant tout satisfaire le marché et consommer et être un bon petit citoyen et un bon petit consommateur. Ouais. Et je pense qu'effectivement, c'est là où il faut qu'on remette tout ça à plat, qu'on inverse la fameuse pyramide dont on parlait tout à l'heure et se dire, en gros, partons de nos besoins individuels et collectifs. Ensuite, on voit comment y répondre. On voit quelle est la place du marché, quelle est la place de l'État. Et puis, on voit, nous, en tant qu'individu, comment on se positionne par rapport à tout ça. Donc, on renverse complètement la logique.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Il y a beaucoup de villes dans le monde qui ont déjà se demandé comment est-ce que nous pouvons essayer de vivre dans le donut, d'atteindre les besoins de tous les gens sans dépasser les limites planétaires. Et les villes peuvent changer le mode de transport dans la ville, le mode d'alimentation, les travails, les entreprises, les policiers gouvernementales, les enfants dans les écoles pour s'engager dans cette question. C'est vraiment fantastique de voir beaucoup de villes dans le monde se demandent et montrent une autre vie est possible.
C'est la voix de l'économiste britannique Kate Raworth en juillet 2024 à l'occasion de la Biennale des villes en transition. C'était à Grenoble. Elle parle très bien le français. Cécile Desonnet et Samuel Sauvage, vous êtes avec nous pour parler des consommations. Cécile Desonnet, vivre dans le donut, ça veut dire quoi exactement? Quelle est cette théorie alors qu'on comprenne bien ce que nous disait cet économiste?
Oui, alors c'est une théorie à la fois hyper simple et hyper stimulante. En gros, elle nous dit par rapport à toutes les limites qu'on évoque depuis tout à l'heure, finalement nos sociétés, nos économies, pour être efficaces, pour bien fonctionner, elles doivent respecter 2 limites du donut. Donc la limite inférieure, c'est qu'elles doivent respecter, atteindre, satisfaire tous les besoins fondamentaux. Donc les besoins fondamentaux, c'est se loger, se nourrir, se déplacer, etc. Donc ça, il faut qu'on arrive à les respecter. Ouais. Et la limite supérieure, ça va être ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc en gros, faire en sorte que notre planète reste habitable demain.
Ouais. Il y en avait 6 d'ailleurs qui avaient été franchies quand vous avez publié votre livre.
Oui, on a essayé la 7e bien d'être franchie.
Donc, déjà réactualisé.
Voilà, malheureusement. Ouais. et j'espère que...
Et ce sera terminé, oui.
C'est ça. Donc, en effet, c'est pas... c'est ce que Samuel a dit tout à l'heure. Globalement, on va dans le mur. Donc, il y a un moment, il va falloir repenser tout ça.
Mais ce cadre, cette image du donut, ça permet de quoi ? De mieux articuler les besoins humains et les limites planétaires, en fait. C'est ça, c'est d'associer vraiment les deux.
Oui, en gros, donc elle, sa théorie, elle est plutôt à l'échelle planétaire. Mais en gros, c'est exactement ce qu'on se dit. C'est que les besoins de l'économie, finalement, on les met plus au centre. Mais c'est vraiment les besoins des écosystèmes et les besoins des humains qu'on va mettre au centre. Et on va essayer de rester dans cette espèce de couloir. Donc, du coup, moi, j'ai pris l'idée et
couloir aussi, on parle consommation.
De couloir de consommation, où en gros, en France, typiquement, on peut peut-être trouver un juste milieu entre tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les vêtements. Vous avez des études de l'ADEME qui vous disent que des Français qui ont plus de 500 vêtements dans leurs armoires. Donc là, on se dit, OK, on est dans la limite, on sort du donut parce que ça n'a pas de sens. Et à l'inverse, vous avez des chercheurs qui vous disent, finalement, avec 85 vêtements dans notre armoire, on peut s'en sortir, on peut vivre bien. Donc là, bim, on arrive à une limite un peu inférieure. Donc l'idée, c'est pas de l'imposer de manière drastique et arbitraire, mais c'est de se dire, tiens, à un moment, si on s'interrogeait sur à partir de quand on estime qu'un besoin est satisfait, et à l'inverse, à partir de quand on tombe dans le gaspillage, la surconsommation.
Samuel Sauvage, dans votre livre, vous décrivez certaines actions écologistes comme des actions de désarmement. Pourquoi vous utilisez ce terme aussi fort et à quoi vous pensez derrière ça ?
Oui, notamment face à la publicité, il y a besoin d'avoir une action de désarmement. Et c'est un terme qui fait écho à la violence, en réalité, du système publicitaire qui pousse à l'achat, qui manipule et qui, derrière, va créer des morts, concrètement, puisque le changement climatique, entre autres, crée des millions de morts et davantage à l'avenir. Donc, en effet, c'est une action de désarmement, c'est-à-dire de désamorcer un système qui est nuisible et qui est donc c'est une action qui est vraiment importante pour le bien-être et la santé de tous.
Et c'est à ce système nuisible que profite vraiment la consommation en réalité, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est tout, vous n'avez rien à ajouter. C'est tout à fait, on s'arrête là-dessus. Bon, et on passe aux questions des auditeurs.
Si nous agissons collectivement...
Ah non, on ne va pas passer à Elisabeth Borne. Non, on oublie Elisabeth Borne, on n'a pas le temps. On passe aux questions des auditeurs. On va passer aux questions avec Anne-Marie qui demande si, pour commencer, le Black Friday est réellement suivi. Est-ce qu'on connaît la classe de population qui achète à cette période ou est-ce que c'est tout le monde, Cécile Desaunay ?
Ce qu'on voit, c'est quand même depuis quelques années, le Black Friday, en effet, est de plus en plus suivi parce qu'il y a quand même un matraquage publicitaire qui fait que c'est difficile d'y échapper. Et en fait, très concrètement, ce qui se passe, c'est que c'est un moment qui est utilisé pour faire ses achats de Noël. Donc, on achète au moment du Black Friday parce qu'on a l'impression de faire des bonnes affaires. On se dit, ça servira pour Noël. Donc oui, globalement, on a un élargissement des publics du Black Friday.
Ouais. Guillaume dit, si on diminue drastiquement notre consommation, OK, mais le système économique mondial ne risque-t-il pas de s'effondrer ? Samuel Sauvage, qu'est-ce que vous lui répondez ? Question intéressante.
Oui, je suis moi-même économiste et donc je m'intéresse beaucoup aux impacts que ça peut avoir à la fois pour notre économie française, européenne et mondiale. Et en réalité, je pense d'une part, il y a les signes d'essoufflement du système actuel qui vit sur des ressources rares et qui fait mine de croire qu'elles sont infinies. Mais par ailleurs, toutes ces mesures qu'on préconise dans nos livres, elles ne nuisent pas du tout à l'emploi et même à la création de valeur sur notre territoire, puisqu'on était sur des fabriques d'objets qui se situent la plupart du temps à l'autre bout du monde, et donc sur lesquels il y a au contraire beaucoup d'activités et d'emplois à créer autour de ces services, de cette réparation, de cet entretien des objets, plutôt que simplement d'importer et de jeter.
Cécile, désolée sur cette question aussi.
En fait, c'est la grande question, parce que souvent, quand on commence à parler de déconsommation, on se dit « oulala, on va tomber en décroissance, ça va être la catastrophe, on va tous retourner dans nos grottes ». D'une part, il faut bien voir que la croissance, déjà en France, elle ralentit. Je ne parle pas des autres pays, parce que là, c'est trop compliqué, mais sur la France, déjà, elle ralentit. Donc, de toute façon... De la même manière, on va sortir de cette phase de tout-croissance. Ouais. Donc la question, c'est plutôt de combien de richesses on a besoin et comment on les répartit ensuite pour que notre société continue à fonctionner. Il ne s'agit pas de retourner à l'âge de pierre, mais bien de repenser ça collectivement.
Ouais. Colin nous dit la question de mieux consommer n'est-elle pas liée surtout à la question de moins mieux produire ?
En effet, l'offre, elle crée sa demande. On est plutôt là-dessus. On l'a vu avec les besoins, on le voit avec l'obsolescence programmée, on le voit avec le low cost. Et donc, cette sphère marchande, elle elle pousse le consommateur derrière à consommer et à gaspiller. Donc, ce qui est en jeu, c'est la production en tant que telle. C'est pour ça qu'il faut encadrer cette production. C'est très important d'agir dessus, c'est-à-dire des garanties plus longues pour les objets, interdiction des objets qui sont insuffisamment réparables et durables, même des quotas d'importation, parce qu'il faut arrêter d'inonder nos marchés de produits nuisibles, quasiment jetables, qui vont se retrouver à la poubelle au bout de quelques mois.
Et donc ça, c'est votre grand combat, d'ailleurs, dans votre association, c'est de pouvoir avoir un véritable encadrement sur ces questions. On va écouter le message de Pierre-Yves, qui vient d'arriver sur l'application Radio France.
Bonjour, c'est Pierre-Yves. Moi, je me pose juste une question. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer aux consommateurs qu'il faut arrêter d'acheter des choses de mauvaise qualité qui seront jetées dans 6 mois ou 2 ans, mais d'acheter des choses qui sont de bonne qualité et qui vont durer dans le temps?
Cécile Desonnet, objets qui sont parfois plus chers aussi à la base.
Voilà, on est assez d'accord sur le principe. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en effet, pour quand même un nombre croissant de Français, la priorité, ça reste le pouvoir d'achat et donc d'acheter moins cher. Et on se dit, finalement, j'achète moins cher, donc j'achète aussi plus de choses. Et donc, malheureusement, je pense que ça passe quand même par un encadrement. Et on le voit sur le secteur du vêtement dont on parlait, il y a quand même de plus en plus de tentatives de taxer les vêtements d'ultra fast fashion, voire de les encadrer fortement. Parce que malheureusement, si on attend que les Français changent de comportement, on voit que ça ne suffit pas.
Samuel Sauvage.
Oui, il y a une majorité de Français qui veulent consommer moins et consommer mieux. Mais ils sentent que ce n'est pas cohérent avec tous ces messages publicitaires qu'ils reçoivent tous les jours et toute cette infrastructure économique. Alors au contraire, là, il faut que nos pouvoirs publics les accompagnent en enlevant tous les biens qui sont nuisibles de l'offre, en encadrant tous ces marchés et en soutenant toutes les alternatives, l'achat d'occasion, la réparation, etc. Parce que sinon, on est devant des injonctions contradictoires.
Sauf qu'on n'y est pas du tout. Enfin, quand on regarde ce qui se passe, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. On avait même une publicité sur la déconsommation qui avait été...
Oui, par l'ADEME.
Par l'ADEME, il y a 2 ans, c'est
ça ? Oui, une campagne.
Et c'était Christophe Béchu qui l'avait...
Oui, qui leur était un peu tombé dessus. Ouais. Et les commerçants aussi. Mais bon, ce qui est compréhensible, parce qu'en fait, c'est là aussi où il faut que tout le système bouge. On ne peut pas juste demander aux individus d'agir. Donc, en gros, sur les entreprises, par exemple, il faut repenser complètement leur modèle économique et se dire, au lieu de chercher à vendre le plus de vêtements possible, par exemple, je vais passer à ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Et donc, je vais avoir des systèmes de location pour qu'en gros, je sois incité en tant qu'entreprise à vendre des produits de qualité que je vais pouvoir réutiliser. Donc, c'est vraiment tout le système qui a à repenser. On ne peut pas juste demander aux consommateurs de faire des efforts si en face, l'offre ne suit pas.
Alan nous dit, on vit un paradoxe incroyable. On nous demande de travailler plus pour augmenter la production, donc augmenter la consommation, mais avec des salaires qui n'augmentent pas, eux. Cessons donc de surconsommer. Revenons à l'essentiel et vivons, dit-il, dans un message enflammé. Le consommateur est en bout de chaîne, dit Michel. C'est lui le responsable de la surconsommation. Un produit qui ne se vend pas ne sera plus commercialisé. Alors, intéressant là aussi, on parlait de la culpabilité...
Il a raison, mais on en revient à cette question des imaginaires. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de la société de conso ? C'est qu'elle reste hyper puissante en termes d'imaginaire et on a du mal à se dire mais qu'est-ce que je fais si j'arrête de consommer ? Parce que, comme tu l'as redit, la consommation, ça reste une source de plaisir. Alors certes, de plus en plus immédiat, de plus en plus limité, mais effectivement, en tant qu'individu, on a parfois du mal à en sortir, à se dire je peux profiter de la vie autrement et effectivement, le vêtement que je vais mettre à la poubelle au bout de 3 fois, j'en ai pas besoin.
Justement, Jean, il demande comment ringardiser la consommation et l'envie de toujours plus. Des sociologues se sont-ils penchés sur la question, Samuel Sauvage ?
Oui, il y a beaucoup de travaux sur comment est-ce qu'on refonde un autre imaginaire. Et moi, ce que je disais, c'est qu'on est majoritaire autour de cet autre imaginaire. Mmh. Et parmi les notions à déconstruire, il y a aussi le pouvoir d'achat qu'on a mentionné à plusieurs reprises. Pour moi, c'est plutôt un vouloir d'achat. Comme on a des besoins, des désirs illimités, c'est forcément un pouvoir d'achat, donc un vouloir d'achat qui est en crise. Donc il faut qu'on arrive à aussi déconstruire cette notion. La réponse, ça ne va pas être de pouvoir acheter de plus en plus d'objets. Au contraire, ça doit être de faire des économies, d'avoir des objets qui durent moins longtemps, de renoncer à des achats superflus pour vivre mieux.
Luc nous dit, intéressant aussi comme message, personnellement, je n'achète qu'en période de promotion, donc le Black Friday m'arrange et ne me pousse pas à surconsommer.
Oui, il y a aussi effectivement des consommateurs qui font ça. Et là, c'est logique. Et oui, ça rationalise un peu les achats. pas je vais profiter des promos, mais c'est pas pour ça que je vais acheter plus, on est d'accord.
Ouais. La non-surconsommation et le capitalisme sont totalement antinomiques, je ne vois donc pas de solution, une vraie révolution étant utopique. Qu'est-ce que vous répondez à Alain ?
Alors, on peut avoir cette posture-là, mais si on veut éviter de se mettre toutes les multinationales à dos, c'est pour ça que moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une manière de repenser les modèles économiques ? Là, on a parlé beaucoup de consommation matérielle, mais en fait, il y a aussi tout ce qui est consommation immatérielle. Donc, c'est ce que j'évoquais avec l'économie de la fonctionnalité. On peut acheter des services. Et finalement, ça crée de la richesse, ça crée du PIB. Donc, tout va bien, les entreprises sont contentes. Et donc, je pense qu'il y a quand même un juste milieu, il y a des marges de manœuvre pour repenser les modèles économiques et faire en sorte qu'on continue à créer des richesses et à consommer, mais différemment.
Merci beaucoup à tous les deux. Vous serez en deuil demain pour le Black Friday ou pas ? C'est votre journée noire, vous ?
On sera tous de noir vêtus.
C'est ça.
Ça sera le Green Friday, voyons.
Merci beaucoup d'être venu. Cécile Desonnet, je renvoie sur cet ouvrage « La société des besoins, comment passer du superflu au suffisant ». C'est aux éditions alternatives. Et puis Samuel Sauvage, « Surconsommation, on arrête tout, on réfléchit » aux éditions de la rue de l'Échiquier. Et surtout, passez-vous, prêtez-vous les livres plutôt que de les acheter. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.